Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission du vendredi 24 juillet 2026. On fait un point rapide de marché puisque petit à petit c'est en train de se gâter, et notamment pour le Nasdaq où hier on a reculé en séance sur la clôture à moins de 2% quasiment, 28 454. Mais surtout petit à petit on aperçoit que ça fait le dos rond au niveau du cours, et c'était une anticipation qu'on avait vue ensemble en observant les oscillateurs, que ça soit du côté du RSI où c'était pas non plus super marqué, mais surtout du MACD où petit à petit nous perdions ce momentum qui était très haussier depuis la vague ici de cette bougie de mars 2026 au profit des vendeurs qui petit à petit sont en train de montrer les dents, et le tout avec une saisonnalité comme vous le savez qui en règle générale historique à l'appui a tendance à être plutôt favorable en juillet et ensuite à se gâter en août et septembre. D'autant plus que rappelons-le, on cumule cette année avec les midterms qui est censé être la pire année pour la bourse américaine des 4 ans du président des États-Unis. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a également ce sujet latent autour de l'Iran. Et hier, on a pu observer un baril de Brent donc, qui est monté de nouveau autour de 100$. En 3 semaines, on est passé de 70 à 100$ pour des points hauts qui avaient été vraiment problématiques autour de 120. Donc on va voir comment va se matérialiser cette dernière semaine du mois de juillet. Mais pour l'instant, on est malgré tout, et c'est matérialisé par un VIX hier qui a rebondi d'une douzaine de pourcents, par une tension qui pourrait revenir sur le marché, d'autant plus que là c'est un peu le miroir inverse pour l'indice de la peur et de la volatilité pour le S&P 500 qui démontrerait que les oscillateurs vont croiser à la hausse et que potentiellement on pourrait avoir une accélération de ce côté-là. Ça nous donnerait, nous, des points d'entrée qui seraient somme toute acceptables par rapport au marché américain, mais c'est vrai que quand on regarde là aussi pour le S&P 500 cette fin de contraction dans un tout petit triangle et que le MACD nous a annonce la musique en nous disant je croise tout en haut et je vais commencer à attaquer des histogrammes donc négatifs, et bien on en risque d'avoir le cours sans trop s'avancer qui au cours du mois d'août viendra quelque part entre 7000 et 7200 points pour le S&P, ce qui par rapport à son top récent autour de 6600 et plus n'est pas complètement la mer à boire, ça en ferait une correction complètement lambda. Là où ça peut se gâter, c'est si en effet on continue d'avoir ce cercle peu vertueux de guerre, de tension, de je joue les mid-terms et plus trop les sujets d'enjeux majeurs, notamment économiques, etc. Et le tout avec des chiffres, des résultats d'entreprise qui sont actuellement en train de paraître et qui sont plutôt bons. Notamment, on a eu Google, Alphabet qui ont révélé vouloir faire encore et toujours plus de CapEx, donc beaucoup d'investissements, mais ils ont désormais un free cash flow qui passe en négatif, et ça a tendance à tendre un petit peu le marché. Et on l'a vu aussi avec Tesla qui exactement sur le même motif a reculé de 14% en séance. Donc faites attention à ça, un été qui pourrait nous placer sous le signe de la correction, pas forcément d'un crack de marché, mais une correction qui en effet, si ça nous ramène ici autour de la zone des 7000 points pour le S&P avec la moyenne mobile 50 semaines qui est en train de remonter, ça sera déjà une zone qui sera relativement intéressante je suppose à payer. On est toujours dans un environnement en plus avec un dollar qui est plutôt boule. On a bien retesté donc la zone de sortie des 100 points, de retour à 101.4 avec cette fameuse médiane de range de l'air Trump à 103 où gravite également donc zone de polarité de la moyenne mobile à 200 semaines. Du côté des taux, eh bien ça continue de chercher le nord pour les taux longs, le 30 ans à quasiment 5,2, le 20 ans pour les États-Unis 5,21 avec un point haut qui n'a pas été touché depuis octobre 2023 autour de 5,39, donc pour dire 5,4. On a également du côté de l'Allemagne le 10 ans qui était à 3,2, le 20 ans 3,6 et 3,67 pour le 30 ans. Et enfin la France qui est passée hier autour de 4 points pour le 10 ans, 4,45 pour le 20 ans et 4,74 pour le 30 ans. Là aussi on est vraiment désormais au niveau de la dette étatique sur quelque chose un peu en roue libre, où les marchés se disent, eh bien, de toute évidence, au plus il y aura de dettes, au plus en plus, petit à petit, on dégrade les notations de certains pays. Et au plus, tout ceci risque de créer un peu une crise obligataire. Et on voit, quand on observe que ça soit du côté de la France, que ça soit du côté de l'Allemagne ou des États-Unis, qu'on a quasi systématiquement le même type de trend. C'est-à-dire, depuis les années 80-90, certes, il y avait des gros accidents de parcours, mais la trend sur le long terme était résolument baissière. à partir du moment où on a eu le crack Covid, les taux quasiment négatifs, etc., et les taux longs qui sont revenus en dessous du pourcent symbolique, derrière, on est rentré dans une trend qui a été haussière. Et c'est quelque chose qui, justement, quand on observe l'historique, n'est pas arrivé, en tout cas pour bon nombre de pays qui sont des pays très développés aujourd'hui, des pays riches, si on peut les qualifier ainsi, qui n'ont pas connu d'air comme ça, où on a des taux qui sont hauts, où on a une inflation qui reste relativement haute aussi, et où peut-être aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, qui prône la croissance tout azimut et que demain les marchés continueront de croître à la même vélocité que ce qu'on a connu grâce à l'IA, blablabla, il y a forcément un moment où le monde du réel, où le monde du consommateur, où le monde humain va rentrer en collision malheureuse avec ce que pensent les marchés que pourrait être une économie purement tech aujourd'hui de demain. Et on le voit petit à petit, on l'a vu notamment, ça me permet de faire la transition vers les métaux précieux avec en effet le gold qui ces dernières années a eu vraiment un run d'anthologie. Là, on est sur une contraction de prix actuellement peu ou prou autour de 4 000 $ l'once. On va voir comment on va sortir de cette zone de consolidation, mais il est vrai que les oscillateurs là nous démontrent que on est plutôt normalement au cours de cet été sur une fin de correction depuis les fameux 5 600 $ l'once qui avait été touché sur la fin janvier 2026 plutôt que sur un début de correction. Après, est-ce qu'on peut aller gratter un petit peu plus bas, 3 600, voire toute cette zone comprise entre 3 150 et 3 450? Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, déjà, dans le monde dans lequel on est et avec des banques centrales et des États qui continuent d'acheter du gold quoi qu'il en coûte, j'ai envie de dire, voilà, c'est quand même un sujet et un enjeu majeur pour la suite. Après, nous, en tant que particuliers, il y a des gens que ça pourrait intéresser, d'autres qui s'en foutent complètement. Libre à vous de faire absolument ce que vous voulez en termes d'allocation au niveau de votre portefeuille. 2200 milliards pour le crypto total, ça n'a pas bougé, toujours cloqué autour de sa moyenne mobile 200. C'est pareil pour Bitcoin, ça fait 3 semaines qu'on travaille au-dessus. La zone dure est comprise entre les 69 et les 71 à peu près pour BTC. On en aura une autre autour de 77-78. Et le boss final se trouvera à 83-85 où nous attend la moyenne mobile à 50 semaines. À partir du moment où on repasse durablement au-dessus de cette MM50, ça veut dire qu'on est re-rentré en bullrun pour le BTC. Dans le cas où ça se gâterait cet été et donc qui accréditerait la thèse d'un S&P 500 Nasdaq qui déroule au sud, on aura donc cette zone des 50 000 $, comme vous le savez. La bottom box n'a toujours pas changé. À l'origine, on avait mis 55-35, quelque chose dans ces eaux-là. Aujourd'hui, on essaie petit à petit de réduire le gap avec 60-40. On pourrait même résumer ça d'ores et déjà à quelque chose de l'ordre de 55-45, si vraiment on veut se fixer un objectif final de plus ou moins 10 000 $. ETH, ça fait 2 fois qu'il se fait repousser à 1950, donc toujours en zone de réaccumulation. La question reste de si Bitcoin va à 50 000, est-ce que ETH nous fait un nouveau point bas et notamment revenir tester ces fameux 1400. On a la sensation, comme on l'avait vu la dernière fois, que bon nombre d'altcoins ont déjà bottom, et quand on regarde par exemple Injective qui nous fait cette séance après être venu chercher 2,70 $ qui était une zone de travail de 2022, on a envie d'y croire. On a Hyperliquid qui ressemble plus ou moins au truc un peu topiche qu'on voit sur le S&P 500 actuellement. On a les oscillateurs pareil qui vont croiser baissier, notamment le MACD. Donc j'espère qu'on pourra le voir quelques dizaines de dollars plus bas et notamment peut-être cette zone autour de la moyenne mobile 50 cumulatif au 0,618 de Fibo, 40-42 $ pour Hype. Solana, c'est un petit peu pareil. On avait ce triangle rectangle ascendant, mais qu'on peut aussi tout à fait voir en tant que retest simple d'une zone de résistance autour de 75-80 $ dans un bear flag, donc dans une continuité baissière. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué, la dernière période, le dernier acte des bear markets, on a tendance à se dire, par épuisement aussi mental, que oui, ça y est, le plus dur est fait, que de toute façon, ça ne peut pas baisser plus, etc. Et je vous rappelle que c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque du côté de Bitcoin. Alors, ce n'est pas ce qui se passe systématiquement, bien entendu, mais pour ceux qui étaient là en 2018, eh bien, on a eu une consolidation comme ça, dans un range très resserré de l'été 2018 au gros décrochage à la mi-novembre 2018. Et on s'est retrouvé moins 50% plus bas de cette consolidation qui était autour de 6 000 $ sur Bitcoin. On a fini par se retrouver à 3 000 début décembre et ça a mis jusqu'à avril 2019, donc 4 mois ensuite, presque 5, si on prend en considération donc on était début décembre, à digérer ça. Et là, on peut véritablement poser la volatilité, le désintérêt absolu, la capitulation, des gros volumes qui rentrent. Et ça, c'est un petit peu ce qui nous manque aujourd'hui, une véritable capitulation. D'un autre côté, comme les joueurs à la table ne sont plus les mêmes, qu'on est institutionnalisé as fuck désormais, est-ce qu'on a suffisamment de particuliers pour capituler justement, et est-ce que les institutions, eux, s'en foutent de la volatilité que peut offrir aujourd'hui le marché crypto? Voilà, c'est de ça dont il va falloir jauger, nous, pour ne pas nous faire embourber à nous dire « Ok, j'attends coûte que coûte les signaux des deux cycles précédents ». Il ne faut pas oublier là que petit à petit, les cartes sont en train d'être rebattues au profit justement de ces institutions. Du côté des minières, treasury companies, sociétés liées à la crypto, écosystème blockchain, pas plus, pas moins, on a MicroStrategy qui vraiment s'empale systématiquement sur les $100 et n'arrive toujours pas à passer. On a Coinbase, moins 3%, qui a buté sur la zone dure des $180 où nous attendait le combo moyenne mobile 20, moyenne mobile 200 et la petite train de long terme qui passe ici. Donc pour l'instant, pareil, on comprime vraiment dans un mouchoir de poche là pour l'action Coinbase. Si on part au sud avec impulsion du gros support des $140, ça va dérouler sale. Pareillement que si on finit par s'affranchir de cette zone des 180 et par la suite autour de 200-210, on aura un très très beau run. Donc les zones finales sont assez bien définies pour toutes ces actions, mais on reste malgré tout collé sur cette fin d'été au bon vouloir justement du marché américain et voir quelles implications et ramifications ça pourrait avoir pour le marché crypto. Au rang des gagnants, on a tous ceux qui ont un peu pivoté sur l'IA avec les Hut 8 Mining qui est très haussier. À peine on est au contact de la moyenne mobile 20, à peine on repart. C'est pareil pour Cypher. Depuis 2 semaines qu'il avait touché les $16 et la MM50 et donc son point de septembre 2021, ça a été payé par le marché. On est déjà de retour à $26. Pareil pour Marathon, pour TerraWolf. Voilà, il y en a quelques-unes, mais ça reste un peu des actions sous Nitro, tout ça. Comme je vous dis souvent, de toute façon, toute cette liste qui est liée à l'écosystème crypto, ça représente déjà en soi un risque bien supérieur à juste acheter de simples actions. En parlant de ça, on a Tesla qui recule de 14,52. On va peut-être avoir la moyenne mobile 200 à 280, la moyenne mobile à 300 semaines à $250. Le bas extrême de ce range qu'on avait eu en janvier 2023, autour de $100. Aujourd'hui, on a Tesla, l'action qui est vraiment surprimé en tant que PE, quand on observe un petit peu les ratios boursiers. D'un autre côté, on a eu le switch où ils ne veulent plus faire que du véhicule électrique. Les chaînes de production de la Model S et de la Model X ont été clôturées au profit de Robot Optimus et ils continuent de donner donc des interviews, des conférences, etc. Elon Musk, où il dit qu'il pense qu'à un horizon de temps de 5 ou 10 ans, on aura 1 milliard de robots humanoïdes sur Terre. Alors ça peut tout à fait arriver. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait, mais je pense qu'il part un petit peu trop vite en besogne et que tout ceci est en train d'être repricé petit à petit autour de Tesla. Et n'oublions pas que tout ça se fait en simultané de l'introduction en bourse de SpaceX, qui après avoir pump à son intro de $150 jusqu'à 225, on est de retour autour de 118, 116, on a même touché hier $110. Donc à voir là aussi, avec bon nombre d'actions qui vont être remises au marché petit à petit d'ici à décembre. Je pense qu'après décembre, donc début 2027, on y verra beaucoup, beaucoup plus clair sur le devenir en termes d'action de prix de SpaceX. Mais pour l'instant, on voit que ça se gâte. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de spéculations autour de ça, de voir si on n'aura pas une fusion à terme entre Tesla et SpaceX et toutes les entreprises XAI et tout ce qu'il y a derrière. Pourquoi pas un conglomérat total incluant jusqu'à X dont est détenteur aujourd'hui Elon Musk. Au rayon des perdants court terme, eh bien on a Google qui revient quasiment au contact de la MM50, donc peut-être cru pour du DCA, ça peut déjà faire sens autour de $309-$310 et ensuite on descendrait beaucoup plus bas si jamais on perd le petit support intermédiaire des $273, on revient autour de $206 et on a les moyennes mobiles très long terme pour la 200 à 185 et pour la 300 quasi aligné avec cet énorme support de sortie ici autour de $150. Donc Google Alphabet est une de ces actions peut-être pas de la démesure, mais qui illustre très bien ce qui est en train d'arriver du côté de la bourse américaine, avec énormément d'espoir sur le futur, qui petit à petit sont en train de revenir à une certaine normalité et réalité du terrain. Et ça, eh bien, les investisseurs ont tendance, après de très beaux runs comme ça, à se retirer, à repasser un petit peu en cash, pourquoi pas en gold. Et c'est des moments où tout le monde observe un petit peu l'autre et qui peuvent conduire justement, par effet un peu de mimétisme et par autoréalisation, à des corrections un peu plus marquées. Il est à noter que le secteur de la défense profite très bien à court terme. On va en parler pour la France et pour l'Europe dans un instant. On a Lockheed Martin qui, après avoir touché sa moyenne mobile 200 en début de semaine, 486$, est de retour à 568. Donc ça, c'est un truc tout con. On paye la moyenne mobile 200, on ramasse comme ça en moins d'une semaine 16 à 17% sur une société qui est un petit peu l'équivalent de Dassault pour les États-Unis, mais en encore plus grand, en encore plus large au niveau de leur domaine d'expertise et dans tout ce qu'ils proposent. Donc vraiment, aujourd'hui, on voit qu'au travers du temps, à chaque fois, les retours proches de la moyenne mobile 200, voire quand on n'était pas très loin de mécher la moyenne mobile à 300 semaines, eh bien pour Lockheed Martin, ça a été payé par le marché. Au rang des losers côté français, on a STMPA, donc ST Microelectronics, au contact du gros support et de la moyenne mobile 20 à 47,48€. Ça va être intéressant à observer puisque on est autour du 0,38 de Fibo qui se trouve à 50€. On déroulerait ensuite beaucoup plus bas puisqu'il faudrait revenir quelque part jusqu'au 36 et 33,60 où nous attendent toutes les moyennes mobiles qui sont calées ici de la 200 à la 300 et où passe également la 50. Donc on a une zone de jeu relativement intéressante là pour ST Microelectronics, mais on voit que moins de 18% en séance, c'est à la hauteur en effet des espoirs qui ne sont parfois pas totalement ou plus totalement alignés avec les attentes du marché. On a également le secteur du luxe qui pour l'instant est toujours vendu malheureusement, quasiment un 5 pour Kering. On revient sur support de nouveau pour LVMH, ça reste vraiment très très compliqué, on n'arrive pas à renverser la vapeur sur ce domaine. Et comme on le voyait à l'instant, au-delà de Total, donc à 76€ qui bénéficie à nouveau un petit peu du pétrole et de tout ce qui se passe pour Hormuz et l'Iran. On a Rheinmetall qui, pour l'instant, est un peu timoré, mais nous a fait déjà une belle correction. On n'est pas ici en France, mais j'ai qu'une seule action défensive allemande, donc on le met dans le marché européen, on va dire. J'essaierai de faire d'autres catégories par la suite. On a Thales, bien évidemment, plus 5% dans sa petite box ici qui continue de consolider. Et enfin, on a Dassault Aviation qui, quasi au contact la semaine dernière, du bas de son range ici, ce méga canal parallèle ascendant qu'ils défendent depuis eh bien, le crack Covid, depuis mars-avril 2020, 278€, de retour au contact de la moyenne mobile 20, 305€, et dans le monde dans lequel on vit actuellement, avec une Europe qui a repris un petit peu les rênes de sa souveraineté et de sa défense, je pense que c'est un sujet quand même et un enjeu majeur pour le futur. Le Kospi qui fait moins 5, je ne sais pas s'il n'y a pas eu un circuit trigger aujourd'hui, malgré tout, on est sur un support pour le Kospi, on va voir comment ça va se passer pour la Corée, et vous voyez que les oscillateurs, là aussi, annonçaient un petit peu la couleur. On recule de moins 2,43 pour Tencent, moins 2 pour Alibaba, moins 2 également pour Xiaomi. Donc, toujours pas la panacée non plus pour la partie asiatique, tandis que les taux, eux, eh bien, continuent de progresser à la même façon que les États-Unis et les autres pays développés, toujours, si on peut les appeler ainsi, plus 1% pour le 20 ans pour le Japon, et on arrive doucement mais sûrement à nouveau autour de 4% pour le 30 ans. Les deux ETF Covered Call liés au Nasdaq dont on a parlé rapidement dans la dernière émission reculent de 2,18 et 1,56 respectivement. Il y a une version accumulante et une version distribuante. Et d'ailleurs, une personne nous avait précisé qu'il y en a une qui est UCITS, donc c'est la première JEQA, et qui est basée donc en termes de réplication, si j'ai tout bien compris, en Irlande. Donc là aussi, comme c'est des produits un petit peu plus complexes, je vous invite vraiment à creuser un petit peu plus de votre côté, chose que je suis moi-même en train de faire de mon côté. Et pour rappel, JEQA, JEPQ, ce sont des ETF qui vont vous proposer le Nasdaq, mais en vous versant un coupon en plus qui peut être assimilé entre grands guillemets à ce que le serait un dividende dans les périodes de volatilité pour vous éviter d'avoir notamment au travers d'un système qu'on appelle du covered call. Donc ça peut être et sur des options, par exemple, ou des futurs, où on va se positionner un peu, c'est les stratégies que beaucoup font aujourd'hui en crypto-monnaie, de delta neutre, pour essayer soit de détenir un actif et de parier sur cet actif à la hausse, tout en se couvrant de l'autre côté, en prenant des options futures ou des futurs à la baisse, par exemple. Donc là, on rentre dans des trucs un petit peu plus compliqués déjà, mais quand on voit que, par exemple, là, on est entre 1,56 et moins 2 et que le Nasdaq, hier, a fait 1,87 de recul, bah, en termes de volatilité, on est plutôt dans les clous exacts de ce que fait l'indice en tant que tel. Sauf que si à un moment donné, l'indice baisse beaucoup, moins 10, moins 20, moins 30, eux, ils vont réussir à vous donner un petit peu mieux sur ces ETF puisqu'ils auront en plus couvert justement cette baisse. Ça ne vous couvrira pas complètement, loin de là. Donc, comme vous l'aurez compris, le but plus que jamais et premièrement de ne pas essayer de surcomplexifier les choses. Parfois, j'ai envie de dire, même si on n'en a pas reparlé aujourd'hui, une bonne vieille ligne CW8 d'Amundi au niveau de l'indice monde, eh bien, ça peut vous faire éviter bon nombre d'erreurs et notamment de stock picking, c'est-à-dire quand on choisit soi-même ses actions. J'ai également rentré en watchlist, c'est beaucoup trop jeune pour être exploité en hebdomadaire bien évidemment, le fameux GPEA qui est l'indice donc d'Amundi ETF en accumulant qui a été lancé autour du 15 juillet. Il a été proposé les premières fois, je crois, une semaine plus tard sur les brokers et les banques françaises. Et donc là, vous avez un All World Country qui vous permet d'acheter un peu plus des 2400 plus grandes entreprises mondiales. Attention toujours, on est quand même fortement pondéré du côté des États-Unis et un peu sous-pondéré du côté de l'Asie et du reste du monde. Donc si vous voulez vous faire un vrai indice vraiment diversifié, la plupart du temps ça passe par 3 à peu près ETF pour vraiment avoir d'un côté soit le S&P 500 ou le Nasdaq pour ceux qui aiment vraiment un peu plus le risque et la volatilité. De l'autre côté, pourquoi pas un petit 10-20% du côté de l'Europe ou un ETF thématique spécialisé, pourquoi pas la défense ou d'autres préféreront si vous êtes déjà avancé justement dans l'âge, comme on disait la dernière fois, les bons au trésor, le marché obligataire peut vous sécuriser un rendement et un coupon annualisé. Et on voit qu'actuellement, on a bon nombre de rendements qui sont au-dessus de 5%. Donc, je suppose que ça intéresse pas mal de monde. Et l'autre partie du spectre, peut-être pour 20 à 30% également du portefeuille. Pour ceux qui voudraient se faire un portefeuille comme ça, 100% ETF, serait du côté des marchés émergents avec, là aussi, vous avez un nombre d'ETF incalculable. Certains qui seront bien pondérés, certains que vous pouvez même avoir équipondérés et d'ailleurs ça existe même pour le S&P 500 et le Nasdaq, ce genre de choses. Vous pouvez les avoir déjà qui sont couverts contre le taux de change, donc euro-dollar, et vous pouvez les avoir également qui sont mieux pondérés que les indices de base, où on vient remettre les ratios en ordre pour ne pas avoir une société, par exemple Nvidia, qui va peser 20% de la totalité de ce que vous détenez dans tel ou tel ETF. Donc comme d'habitude, essayez de faire en sorte d'investir dans ceux qui vous ressemblent, dans ceux qui vous parlent, et quand vous voulez investir dans quoi que ce soit, eh bien réfléchissez bien et documentez-vous. Là, on a la chance, par exemple, quand c'est Amundi qui nous fait du UCITS en Europe et qui édite comme ça des nouveaux produits, d'avoir toute une documentation à disponibilité en 3 clics sur Internet. Avant d'appuyer sur le bouton et de faire quoi que ce soit, lisez la documentation systématiquement, observez les frais, faites de la concurrence et vous verrez qu'ensuite, vous ferez des choix qui vous ressembleront et qui, au travers du temps, vous permettront justement de traverser les moments de volatilité, de difficulté. Puisque là aussi, eh bien, n'oublions pas que les marchés ne sont pas censés ne faire que des gagnants. Et au long terme, en effet, il n'y a que ceux qui sont restés suffisamment longtemps qui, en règle générale, finissent par en tirer un quelconque bénéfice. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain, peut-être pas justement pour de l'analyse technique, mais que pour le récapitulatif financier de cette semaine. Et pour ma part, ensuite, je vous retrouverai mercredi prochain. Ciao, ciao.